Bonjour chers auditeurs, je suis Louis Duruflé et bienvenue dans le podcast Tout sur Tout Histoire, le podcast énergie pour ceux qui n'écoutaient pas au fond de la classe d'histoire. Biographies de personnages célèbres, événements marquants, épopées entrepreneuriales, laissez-vous surprendre par l'histoire dont on ne vous a jamais parlé à l'école. Aujourd'hui, on va parler d'une grande physicienne qui a dû se faire une place dans un monde scientifique exclusivement masculin et particulièrement misogyne. Non, on ne va pas parler de Marie Curie, même si c'est une physicienne tout aussi rayonnante. Vous comprenez la blague ? D'ailleurs, ça me fait penser à la notion de matrimoine. Oui, oui, vous avez bien entendu, de matrimoine, avec un M comme dans « J'aime la vie » ou un M comme dans « Maman ». C'est exactement le M de maman d'ailleurs. Parce que d'habitude, on dit patrimoine avec le P de papa. Et même si on ne pense pas à son père quand on parle de patrimoine, c'est quand même de là d'où vient le mot. Au Moyen Âge, on utilisait patrimoine pour désigner ce qu'on héritait de son père et matrimoine pour désigner ce qu'on héritait de sa mère. Puis, vous connaissez l'histoire. On décide de dire que les trucs de maman... Eh ben c'est moins important que le truc de papa. Donc on va garder matrimoine pour parler de mariage, par exemple, comme dans matrimonial. Et retenez bien ce mot parce qu'on va le revoir. Et patrimoine pour tout le reste. Ce dont on hérite de son père d'abord, puis de ses parents. Et oui, pendant un moment, les mères ne possédaient rien, alors elles ne pouvaient plus rien transmettre. Et patrimoine aussi pour ce qu'on hérite de nos papas de la société, comme la peinture, les jolis bâtiments... Les personnes dont on veut se souvenir du nom, comme les grands hommes politiques ou encore les châteaux. Tout ça, c'est notre patrimoine, demandait à Stéphane Bern. Et le problème, c'est qu'on a tendance à oublier que les femmes aussi ont fait des choses. Aujourd'hui, on va donc parler d'une femme qui n'a que 5 noms de rue en France, alors que son célèbre conjoint en a 1069, 200 fois plus qu'elle. Et pourtant, elle a été physicienne, philosophe, écrivaine, et elle a vécu comme une femme libre. Bienvenue à Émilie du Châtelet dans Tout sur Tout Histoire. Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil est née à Paris le 17 décembre 1706. À partir de maintenant, on va l'appeler Émilie. Avec un nom à rallonge comme ça, vous vous doutez bien qu'elle est née dans une famille plutôt aisée. En effet, son père n'était pas n'importe qui. Louis-Nicolas Le Tonnelier de Breteuil, baron de Preuilly-en-Touraine, seigneur d'Azay et seigneur de Fontbaudry, officier, excusez du peu, de la maison du roi sous Louis XIV, introducteur des ambassadeurs, maire des dragons et typhonné. pardon, non, ça y est pas dedans, non. Bref, donc un aristocrate anobli par l'achat de la terre de Preuilly dans les petits papiers de la cour de Versailles. La mère d'Émilie n'est pas non plus en reste. Gabrielle Anne de Froulay est issue d'une vieille noblesse d'épée du Maine, c'est à peu près au niveau du Mans. Et elle avait reçu à ce titre une éducation tout à fait classique pour son temps, le couvent. Quand Émilie est née, ses parents fréquentent l'élite intellectuelle de la France de l'époque. Très tôt, Émilie développe une curiosité et une vivacité prononcée. Son père décide du coup de lui offrir l'éducation qu'a eue ses deux grands frères et qui avait été refusée à sa mère quand elle était jeune. De nombreux précepteurs viennent alors à la maison pour assurer son éducation. La poésie, le latin, le grec ancien, l'allemand, la danse, la gymnastique, la musique, les sciences naturelles et les mathématiques. Elle est douée pour tout. Mais sa préférence va vers les mathématiques et les sciences naturelles. Dès son plus jeune âge, elle fréquente Jean-Baptiste Rousseau, un poète qui, attention, n'est pas Jean-Jacques Rousseau, celui qu'on connaît tous. Elle fréquente aussi Bernard Le Bovier de Fontenelle, un ami de la famille. C'est un grand homme de science et le neveu de Pierre Corneille, celui-là, oui, qui a écrit le Cid et l'illusion comique. Il a des conversations passionnantes avec la jeune fille de 10 ans sur le système solaire ou la voie lactée, et ça les a profondément marqués. Fontenelle va garder en tête que les femmes peuvent penser la science et ne manquent pas d'intelligence face aux hommes. Une vision progressiste malgré tout pour l'époque. Quant à Émilie, elle tient à savoir comment le monde est formé et quelles sont les lois qui régissent l'univers. Bon, je vous divulgage un peu la suite, mais elle ne sera pas déçue de ce côté. Plus son adolescence passe, plus elle comprend que deux options s'offrent à elle. Le mariage ou le couvent. Alors, de son côté, sa mère cherche à reproduire le modèle qu'elle-même a vécu et insiste pour que sa fille aille dans un couvent très strict. Mais heureusement, le père d'Émilie décide de l'introduire à la cour du régent de Louis XV, Philippe d'Orléans. Merci papa. Son objectif, avoir le mariage qui lui laissera le plus de liberté. Sa méthode, s'intégrer à de nombreux cercles pour repérer les hommes qui pourraient faire l'affaire. Ses moyens, parler de ses savoirs et montrer ce qu'elle a dans le ventre pour rejeter les hommes superficiels. Sa passion, gagner aux cartes. Avec ses connaissances en mathématiques, elle fait le calcul pour gagner tout le temps aux cartes. Elle gagne même de belles sommes d'argent. Et son coup d'éclat, provoquer un garde de Versailles à un combat à l'épée. Intrépide, elle a tout fait pour que le Versaillais accepte le défi. Et résultat, match nul. Mais donc une victoire symbolique pour elle. Match nul face à un garde du château de Versailles. Elle, une jeune femme de 18 ans. À 19 ans, elle désigne plusieurs prétendants à son père pour que lui puisse estimer les meilleurs arrangements matrimoniaux. Et je vous l'avais bien dit qu'on reverrait ce terme. En 1725, le mariage est arrangé avec Florent-Claude du Chastelet, un marquis militaire de 10 ans son aîné. Plus qu'amants, ils sont surtout de très bons amis et s'accordent chacun chacune beaucoup de liberté dans leur vie. Ils auront rapidement deux enfants. Françoise Gabrielle Pauline en 1726 et Louis-Marie Florent en 1727. Eh oui, ça fait beaucoup de prénoms pour des petits bouts. En 1733, Victor Esprit naît, mais il ne vivra pas beaucoup plus qu'un an. Dans ce mariage arrangé, Émilie fera très attention à sauver les apparences, comme on dit. Florent Claude, souvent parti en campagne militaire, finance le besoin de connaissances d'Émilie. Elle achète de nombreux livres, continue à se former sur les mathématiques, et évidemment sur l'astronomie. Quand elle a 24 ans, elle rencontre Louis-François Armand de Vignerot du Plessis, duc de Richelieu, un petit-neveu du cardinal de Richelieu, le méchant des mousquetaires. Sa réputation le précède quand il rencontre Émilie. Libertin accompli, il a même inspiré le personnage de Valmont dans Les Liaisons dangereuses de Chauderlos de Laclos. Ils deviennent amants et mènent à côté une belle relation intellectuelle. Louis du Plessis lui recommande de structurer son apprentissage et de ne pas se contenter de livres pour apprendre les savoirs, mais au contraire de faire appel à des tuteurs. Bien qu'ils se fréquentent pendant un an seulement, ils garderont une relation profonde qui durera toute leur vie en s'écrivant de nombreuses lettres où ils parlent de philosophie, de littérature et de métaphysique. Poursuivant donc son apprentissage de la philosophie et des sciences, Émilie du Chastelet est à la recherche de nouveaux tuteurs de plus en plus passionnants. Et oui, j'ai dit Chastelet et pas Châtelet, c'est normal, on en reparlera plus tard dans l'épisode. Elle rencontre notamment Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, un membre s'il vous plaît de l'Académie des sciences, et un élève de Bernoulli, le célèbre mathématicien. Il lui donne accès à l'effervescence des écrits physiques et mathématiques de son temps. C'est à ce moment-là qu'elle lit pour la première fois l'ouvrage « Philosophiae Naturalis Principia Mathematica », autrement dit « Les principes mathématiques de la philosophie naturelle », écrit par Isaac Newton. Mais si, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Le type qui s'endort sous les arbres, avec des pommes qui lui tombent sur la tête. Ça y est, ça vous revient ? Celui qui a eu un impact, mais tellement important sur les sciences physiques, qu'on a même donné son nom à une catégorie de physique, la physique newtonienne. Un peu comme Euclide avec la géométrie, mais 2000 ans plus tard. Je pense que dans sa tête, quand Émilie a mis la main sur l'ouvrage, elle a dû se dire « Enfin, quelqu'un qui pense le monde sous des grandes lois mathématiques, ce que je cherche depuis ma plus tendre enfance. » Elle aurait aimé le rencontrer, mais Newton est décédé en 1727, 5 ans avant qu'Emily lise son œuvre. Pendant toute cette période d'apprentissage intense, elle comprend que sa vie prend un nouveau tournant. Elle tient à être reconnue comme une femme de science, au même titre qu'un homme de science. À l'époque, tous les mercredis, il y avait une réunion entre philosophes et mathématiciens pour parler des avancées scientifiques. Ces réunions avaient lieu en plein cœur de Paris, au café Grado, situé quai de l'école. Pour vous situer, aujourd'hui, c'est le quai du Louvre, celui qui est entre le Pont Neuf et le Louvre, quoi. Elle voulait y assister, mais les réunions étaient interdites aux femmes. Les grands esprits de leur temps pensaient que les femmes allaient détourner les hommes des conversations importantes qui pouvaient s'y tenir. Elle tente donc d'y aller, mais elle se fait expulser du café Fissa et raccompagner jusqu'à la sortie. Fidèle à son caractère, elle décide alors de se faire coudre un ensemble de vêtements d'hommes. Et elle y va incognito, s'asseoir jusqu'à la table de Maupertuis. Quand il la voit, il l'acclame et il lui paye un café. Elle a pu par la suite y retourner, mais toujours en portant son complet d'homme. Heureusement, la loi sur le travestissement des femmes n'était pas encore votée. On en parle dans notre épisode sur George Sand, parce qu'elle aussi a dû user de stratagèmes similaires. Bref, Émilie du Chastelet est aussi une femme du monde. En effet, elle va au théâtre, elle lit beaucoup, elle se rend régulièrement au café et elle rend visite à ses amis aristocrates. Au printemps 1733, elle se rend chez son amie, la duchesse de Saint-Pierre, et y rencontre un auteur dont elle a vu les pièces au théâtre. François-Marie Arouet, dit aussi Voltaire. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter Voltaire, mais bon, quand même un petit peu. Voltaire, c'est le pseudonyme que François-Marie Arouet a inventé. C'est un écrivain, philosophe et homme d'affaires français du XVIIIe siècle. Il est né en 1694 à Paris. Il a beaucoup écrit, notamment du théâtre et des ouvrages philosophiques. Mais il s'est aussi beaucoup enrichi en spéculant sur la vente d'armes et en vendant ses livres, bien sûr. Il n'aimait pas trop les classes populaires, mais il rejetait aussi le pouvoir arbitraire du roi de France. En 1726, à 32 ans, il se querelle avec un chevalier, Guy-Auguste de Rohan-Chabot. À la suite de ça, il est exilé en Angleterre, où il trouve là-bas des espaces de liberté insoupçonnés jusqu'ici. Quelques années plus tard, il revient et se fait à nouveau accepter dans les cercles parisiens. Donc à son retour, Voltaire rencontre Émilie. Et c'est le coup de foudre dans tous les sens du terme. Rapidement, elle invite Voltaire dans son château de Ciré, entre Troyes et Nancy à peu près. Voltaire s'installe dans ce château qui l'aide à rénover. Et ils se fabriquent ensemble leur petit nid scientifique. Bibliothèque massive, instruments scientifiques, laboratoire de recherche. Se considérant comme des égaux, Voltaire partage son savoir et ses positions philosophiques avec Émilie. Pour contenter tout le monde, je vais vous donner un exemple spécial scientifique. Et un exemple spécial littéraire. C'est parti! L'exemple littéraire d'abord. Voltaire pousse Émilie du Chastelet à questionner l'orthographe de son titre de baronne. À ce moment-là, la grammaire française n'est pas complètement formalisée. D'ailleurs, assez peu de personnes parlent français en France. Depuis l'édit de Villers-Cotterêts de François Ier en 1539, le français remplace le latin comme langue administrative et juridique dans le royaume. Mais seule l'élite du nord de la France le parle au quotidien. Ailleurs dans le pays, chacun parle sa langue. Le basque au Pays basque, le breton en Bretagne, le baragouin, le picard, le rouchi, le normand, chacun sa langue selon son territoire. Depuis Louis XIV, on essaye de rendre le français obligatoire, mais ça n'est qu'à la Révolution française qu'arrivent les premières lois d'ampleur. Au XVIIIe siècle, celui de Voltaire et d'Émilie, les règles de grammaire ne sont pas figées et de nouveaux usages apparaissent. Comme celui, par exemple, de cacher un S par un accent circonflexe ou de supprimer des règles inutiles. Donc Chastelet perd un de ses L, parce que de toute façon, on n'en entend qu'un seul. Et puis le S s'est transformé en accent circonflexe. Sous l'impulsion de Voltaire, qui voulait volontiers réformer le français, Émilie du Chastelet devient Émilie du Châtelet, comme la station de métro. Mais ça n'a rien à voir. La station s'appelle comme ça parce qu'avant les Halles, il y avait un petit château, le Châtelet. Ça, c'était pour l'exemple littéraire. L'exemple scientifique maintenant. Pendant son exil en Angleterre, on l'a vu, Voltaire a rencontré les plus grands scientifiques de son temps, et notamment un certain Isaac Newton. Voltaire comprend vite que Newton, c'est pas n'importe qui, et qu'il faut répandre ses travaux partout dans le monde, et notamment en France. Quand Voltaire rencontre Émilie du Châtelet, on va l'appeler comme ça maintenant, il est complètement subjugué par son intelligence et son savoir scientifique. Naturellement, elle connaît déjà Newton et ses travaux, mais Voltaire la convainc de l'importance de traduire Newton en français et de faciliter la possession de son œuvre, jusqu'ici entièrement rédigée en latin. Elle entame donc une traduction des principes mathématiques de la philosophie naturelle, mais il faut faire sans l'auteur. On l'a déjà dit, Newton est mort. Pour pouvoir garantir une traduction de qualité, elle consulte des mathématiciens pour l'éclairer sur des points très spécifiques. Leibniz, Euler, Buffon, Bernoulli, tout le gratin mathématique de son temps. Et je vous le dis, je connais plus d'un mathématicien qui aurait aimé être à sa place. Pour sa traduction, elle refait tous les calculs pour s'assurer de leur précision. Et elle complète par des dizaines de notes et des compléments d'informations. C'est une traduction tellement précise que c'est, encore aujourd'hui, la version utilisée. Bref, Voltaire et Émilie du Châtelet créent un cercle d'élite intellectuelle dans le château de Ciré. La plupart des philosophes des Lumières viennent les voir, les mathématiciens et les naturalistes les connaissent, et leur savoir est loué par l'ensemble de la communauté. Au château, ils font jouer des pièces de théâtre pour les invités, font venir des savants étrangers, et même Florent Claude, le mari d'Émilie, s'en trouve fort aise. Il prend du plaisir à rejoindre sa femme au château et à papoter avec Voltaire. C'est une vision très moderne du couple. Toutes ces soirées, toutes ces rencontres, c'est vraiment important pour Émilie du Châtelet. En effet, on ne parlera jamais assez de l'importance des réseaux dans la création des connaissances. Certes, le génie humain y est pour beaucoup, mais le bouillonnement intellectuel, celui-là, il se produit quand les chercheurs peuvent échanger entre eux. C'est notamment comme ça que certaines idées arrivent, par chance. Et pour provoquer la chance, il faut provoquer la rencontre. Congrès, dîners, rencontres dans des cafés ou cercles privés. Mais la plupart du temps, ce sont des boys clubs. Les hommes se réservent le droit d'y être les seuls admis. Pour une femme, créer cette émulation intellectuelle chez elle est aussi une manière de se mettre en réseau. Tout ce foisonnement intellectuel va pousser Émilie à écrire son premier article scientifique. En 1737, l'Académie des sciences lance un concours sur la nature du feu et sa propagation. Voltaire s'y inscrit et se lance dans les expériences diverses pour comprendre comment le soleil peut envoyer des rayons si loin et atteindre la Terre, et puis de quelle manière le soleil est-il lié à la lumière ? Et il se demande même si ça n'a pas un rapport avec l'électricité, ce phénomène physique qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Voltaire pense notamment que le feu est une matière solide et qui a un poids, alors qu'Émilie, qui en connaît quand même un rayon sur beaucoup de choses, n'est pas très convaincue par son explication. En catimini, elle s'inscrit au concours, qui est anonyme, et elle va dans son bureau la nuit pour écrire en cachette. Elle aboutit à une dissertation de 139 pages où elle décrit que la chaleur et la lumière ont la même origine. Elle ne gagne pas le concours, mais son article est jugé remarquable par l'Académie des sciences et elle est publiée. Elle devient la première femme publiée par l'Académie des sciences, marquant une grande étape dans l'histoire des femmes. Et si vous voulez savoir qui est le grand gagnant du concours du feu, eh bien c'est Euler, un éminent mathématicien de l'époque. Elle n'a donc pas à rougir de sa défaite. Pendant les 4 années suivantes, elle s'attelle à la rédaction d'un ouvrage majeur, Institution de physique. Au début, elle cherchait à créer un manuel pour son fils, un manuel qui synthétiserait les idées de Newton sur la physique et celles de Leibniz sur la métaphysique. Pour faire hyper simple, quand on parle de physique, on parle des lois qui régissent la nature. Gravité, mouvement des planètes, vitesse, matière, etc., etc. On part du principe qu'il y a des grandes règles générales qui s'appliquent à tout, et qu'en trouvant ces principes et en faisant des calculs, on peut comprendre comment ça fonctionne. La métaphysique, elle, consiste à comprendre pourquoi ces lois existent. Et on aborde alors des questions aujourd'hui toujours irrésolues. Est-ce que l'âme existe? Et comment elle se lie au corps? Quel est le rôle des dieux dans l'établissement de la physique? Et puis, fondamentalement, pourquoi sommes-nous? Et la métaphysique n'est pas juste une question de philosophe. Penser la métaphysique, c'est se questionner sur comment on se pense, nous-mêmes, et donc les autres, et le monde, et donc comment on peut interagir avec tout ça. L'idée d'Émilie du Châtelet, c'est notamment de vouloir faire le lien entre physique et métaphysique. Pas si simple. Surtout qu'encore aujourd'hui, on n'a pas trouvé de réponse à cette question. Il n'existe toujours pas de synthèse complètement convaincante et on choisit plutôt d'éviter la question. Bref, pour l'écriture de son ouvrage, Émilie défend notamment une rigueur scientifique. Elle veut démontrer l'intérêt de la science empirique, celle qui est basée sur l'expérience. Elle écrit même que « l'expérience est le bâton que la nature a donné à nous autres aveugles pour nous conduire dans nos recherches ». À cette époque, certains écrivent ce qu'ils pensent vrai sans le vérifier autrement que par des calculs. Et à la publication des Institutions de physique, un mathématicien entre dans une rage folle, Jean-Jacques d'Orthouz de Méran. En effet, avec son ouvrage, Émilie du Châtelet relance une vieille querelle entre Descartes et Leibniz. La querelle des forces vives. Et elle prend position pour Leibniz, et donc contre Descartes. Descartes, c'est la raison même, c'est un peu la superstar des scientifiques avec sa méthode de pensée. La théorie d'Émilie du Châtelet met même en défaut Newton sur certains points. On assiste alors à la première controverse scientifique documentée entre un homme et une femme, en tout cas en Europe. Et c'est Émilie qui finit par gagner. Elle publie quand même 2 ans plus tard une nouvelle édition augmentée pour s'affranchir des remarques qu'elle a reçues. Elle clôt le débat avec cette phrase, mais tellement badass. « Vous me répétez encore ici, monsieur, que je n'ai point lu votre mémoire. Et à force de me le dire, je crains qu'à la fin vous ne me le persuadiez. Je viens donc de le relire. Mais je n'ai remporté d'autres fruits de cette nouvelle lecture que de me convaincre que je ne vous lirai jamais bien. » En gros, « cher monsieur, vous ne savez pas me lire et vous écrivez tellement mal qu'on ne peut pas vous lire correctement. » Clair, net et précis. Pour terminer sur sa carrière scientifique, 2 faits notables. Elle intègre en 1746 l'Académie des sciences de l'Institut de Bologne, en Italie, la seule à l'époque qui acceptait les femmes dans son rang. Et pour ceux qui se posent la question, oui, la sauce bolognaise, c'est bien la sauce qui vient de Bologne. 2e fait notable. La même année, des experts allemands listent les savants les plus influents de l'époque. Et Émilie du Châtelet arrive dans le top 10. En parallèle de sa carrière scientifique, les relations avec Voltaire se transforment. Lui fréquente d'autres femmes et elle souhaite qu'ils deviennent de simples amis. Dans le lot, c'est plutôt Voltaire qui se vexe. Et Émilie du Châtelet lui écrit de nombreuses lettres pour le rassurer sur son intelligence et sur le fait qu'ils resteront proches. En 1748, elle rencontre le poète et militaire Jean-François de Saint-Lambert. Et là, c'est un nouveau coup de foudre. Rapidement, elle tombe enceinte de lui et elle se révèle plutôt inquiète. À 42 ans, elle a peur que la grossesse soit difficile. Aujourd'hui, on appellerait ça une grossesse gériatrique. Et oui, le terme est pas terrible, oui. On a peu d'archives sur sa grossesse, notamment parce que c'était un sujet tabou. On parle pas des grossesses, pas plus qu'on les représente, c'est comme ça. Mais on imagine quand même que ça ne devait pas être très simple. Elle va à Lunéville pour accoucher près de Florent Claude, son mari, Voltaire, son ancien amant, et Saint-Lambert, le père du bébé. L'accouchement ne se passe pas très bien, mais la petite Stanislas Adélaïde arrive quand même au monde. 6 jours plus tard, Émilie du Châtelet rend les armes et meurt. Voltaire va continuer pendant un certain temps d'honorer sa mémoire. Il va écrire de très jolies choses dans certaines préfaces de ses livres. Bon, parfois, c'est aussi des trucs un peu étranges, comme quand il écrit « J'ai perdu un ami de 25 années, un grand homme qui n'avait de défaut que d'être une femme. » Mais bon, parfois, il dit des trucs aussi plus classiques, hein, rassurez-vous. Mais finalement, que retenons-nous d'Émilie du Châtelet ? Née noble, elle est très vite soutenue par son père pour mener des études de sciences. Elle comprend qu'elle n'échappera pas au couvent ou au mariage. Et donc elle décide de se trouver un mari qui lui laissera sa liberté. Florent-Claude du Châtelet et elle se complètent bien. Ils ne se gênent pas dans leurs activités respectives et ils se respectent beaucoup. Au gré de ses rencontres et de ses apprentissages, elle aura les meilleurs tuteurs, notamment Koenig et Maupertuis, et elle deviendra une grande savante française. Elle a traduit Newton et elle a été la première femme publiée par l'Académie des sciences de Paris. Elle publie aussi un important traité, Institutions de physique. Elle est considérée comme la première femme de science en France. Dans sa vie privée, elle a été très libre et elle a eu de nombreux amants. Elle est sortie avec Voltaire pendant 15 ans et c'est surtout ce qu'on va retenir d'elle. Toute sa vie, elle a fait face à des hordes d'hommes qui ont essayé de l'empêcher de pratiquer sa science. Elle a apporté des idées nouvelles, elle avait une posture avant-gardiste sur l'intérêt de l'expérience en science et elle a quand même traduit, excusez du peu, Isaac Newton en y apportant ses corrections. Mais qu'importe, tout ce qu'on retient d'elle, c'est qu'elle a été l'amante de Voltaire. C'est une chose classique concernant les femmes dans l'histoire. Leurs apports sont rendus invisibles et on les réduit aux hommes qui les entourent. On a vu ça aussi avec George Sand ou Maria Anna Mozart, par exemple. Aujourd'hui, il y a un grand mouvement de fond pour réhabiliter ces femmes qui ont réussi à se frayer un chemin dans l'adversité. Par exemple avec le matrimoine. Et je suis ravi d'y avoir participé en vous faisant découvrir Émilie du Châtelet. Alors, merci d'avoir suivi assidûment cet épisode sur Émilie du Châtelet. Cet épisode a été écrit par Tracy Wilson et Holly Frey pour le podcast américain Stuff You Missed in History Class. Il a été réécrit, adapté et interprété par Louis Duruflet. À la production et à la réalisation, Amel Almia. À la rédaction en chef, Maude Ventura. Tout sur Tout Histoire est un podcast NRJ et iHeart Podcast. Retrouvez tous les épisodes sur nrj.fr, sur l'app d'NRJ ou sur votre application de podcast préférée. Et si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Mettez-nous des étoiles et des commentaires. Si vous avez aimé, c'est vraiment la meilleure manière de soutenir ce podcast. À bientôt !